Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, pour la rédaction en fulfuldé en ligne de Dakar, Tim Bimba.
Vous êtes là, minima, Philippe.
À propos du report de la présidentielle au Sénégal, avec il y a de cela quelques minutes des engagements pris par l'actuel chef de l'État. Vahid Chemzodinejad. De la rédaction en persan afin de décrypter les déclarations de l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères qui confirme la capacité de l'Iran à fabriquer une bombe atomique. Et enfin, Judith Zheng de la rédaction chinoise pour la nouvelle année, celle du dragon avec sa portée culturelle et politique. Et puis une pensée pour la famille de Salissou Amissou, journaliste à la rédaction de RFI en Naoussa. Il a succombé à ses blessures après un accident de la route au nord du Nigeria. Il était âgé de 51 ans. Il était une voix et un visage historique de la rédaction basée à Lagos au Nigeria. Il présentait chaque semaine notamment l'émission culturelle de musique et de cinéma intitulée Nishadi. Salissou Amissou vient d'être inhumé aujourd'hui au cimetière de Tsbiri, qui est dans la région de Maradi, au Niger. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est Gaza, alors qu'aujourd'hui, il y a ce raid israélien dans un hôpital et le ministère de la Santé du Hamas qui annonce 5 morts avec des coupures d'oxygène. Plus largement, est publié le chiffre de 28 775 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. L'armée israélienne affirme, elle, avoir fait 20 prisonniers, des suspects des attaques du 7 octobre. Tout d'abord, avec vous, Vahid, un point sur la situation, un nouveau point.
Sur le terrain, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais se sont intensifiés ces derniers jours. Le parti chiite, allié de l'Iran, a ouvert le front du sud du Liban depuis le début de la guerre pour soutenir le Hamas palestinien, membre de ce qui est appelé l'axe de la résistance à côté des Houthis au Yémen et des milices chiites en Irak. La multiplication des échanges de tirs fait craindre une escalade. Mercredi a été la journée la plus sanglante depuis le début des échanges de tirs à la frontière entre le Hezbollah et l'armée israélienne. En plus de 4 mois, au moins 268 personnes ont été tuées dans le sud du Liban. Par ailleurs, les rebelles houthis soutenus par Téhéran continuent les attaques contre les navires au large du Yémen. Même les frappes américano-britanniques contre les positions des houthis dans plusieurs régions du pays n'ont pas été dissuasives.
Pour ce qui est de la diplomatie, il y a ce que dit le président français. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. Déclaration d'Emmanuel Macron recevant le roi Abdallah II de Jordanie à Paris. Et d'ajouter qu'une offensive à Rafah conduirait à un désastre humanitaire sans précédent et à un tournant dans ce conflit. Vahid, et du côté de la diplomatie américaine?
Les États-Unis et ses alliés qatariens et égyptiens travaillent depuis plusieurs semaines pour trouver une solution acceptable pour les deux parties du conflit afin de conclure une trêve. Une trêve qui permettrait à la fois un cessez-le-feu durable et la libération d'otages israéliens et la livraison d'aide humanitaire pour les Gazaouis. En même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré cette semaine Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas au Qatar. Lors de cette rencontre, Hossein Amir Abdollahian a estimé que le fait de reconnaître le groupe palestinien comme une partie des négociations confirme son rôle et sa position irremplaçable. On le sait, le Hamas est soutenu par l'Iran, puissance régionale et ennemi juré d'Israël depuis longtemps. La République islamique a même félicité les attaques meurtrières du 7 octobre en Israël. On sait aussi que le Qatar est le pays hôte des dirigeants politiques du mouvement palestinien et était le principal soutien financier du Hamas avec l'aval d'Israël.
Et puis il y a ce que dit la Russie, ce qui vient aujourd'hui de Moscou.
En pleine négociation de trêve et avant une possible et imminente attaque israélienne sur Rafah, la Russie convie les groupes palestiniens de le Hamas à des pourparlers dans la capitale russe. Moscou entretient de bonnes relations avec tous les acteurs du conflit israélo-palestinien. Ces relations se sont tendues un peu avec Israël du fait de son offensive à Gaza et de son refus affiché d'un État palestinien. C'est dans ce contexte que le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a annoncé des pourparlers interpalestiniens à partir du 29 février à Moscou, notamment avec le djihad islamique et le Hamas, qu'Israël et les Occidentaux considèrent comme des organisations terroristes. Le président russe a dénoncé de manière répétée la conduite d'Israël à Gaza Il a aussi resserré depuis son assaut contre l'Ukraine ses liens avec l'Iran, parrain du Hamas, qui fournit à Moscou notamment des drones militaires dans sa guerre contre Kiev.
Alors de nombreux pays dans le monde font leur possible pour ramener le calme dans la bande de Gaza. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Timimba, que fait la nation arc-en-ciel exactement dans ce dossier ?
La bataille de l'Afrique du Sud est surtout judiciaire. Pretoria a déposé mardi dernier recours auprès de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance judiciaire de l'ONU, afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah. L'objectif de la requête est d'empêcher ce que la présidence sud-africaine qualifie de nouvelle violation plutôt imminente des droits des Palestiniens à Gaza. Elle précise que Rafah, qui accueille environ 1,4 millions de personnes qui ont fui Gaza, et le dernier refuge pour les survivants de cette guerre. Mais cette plainte sud-africaine contre l'Israël devant la Cour internationale de justice n'est pas la première. L'Afrique du Sud avait déjà saisi la Cour en accusant l'État hébreu de génocide à Gaza, une plainte forte et historique.
Alors justement, que dit la Cour internationale de justice ?
La Cour internationale de justice ne s'est pas encore prononcée sur cette grave accusation, mais elle a toutefois enjoint l'Israël de prévenir de tels actes. Une décision qui, pour l'instant, n'a eu aucun effet sur l'offensive menée par le gouvernement israélien, dont le Premier ministre promet que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. Pour Dr Abdourbaï, spécialiste des relations internationales, même si les arrêts de la CIJ sont contraignants et ne peuvent faire l'objet d'appels, ils ne peuvent pas être appliqués dans le contexte actuel. On va l'écouter.
Quelle est son analyse, Timbi?
Docteur Abdouba indique que traditionnellement, l'Israël ne se plie pas aux décisions internationales prises à son encontre. Toutes les tentatives de sanctions contre l'État hébreu aux Nations Unies sont régulièrement bloquées par les États-Unis. C'est depuis plusieurs années. Docteur Abdouba conclut en disant que toute décision prise par la Cour internationale de justice n'aura qu'une portée symbolique.
Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud soutient ainsi les Palestiniens ?
Philippe, ce soutien est lié à l'histoire de l'Afrique du Sud, une nation aux 50 ans de lutte contre l'apartheid. Elle est naturellement très sensible aux questions raciales et d'oppression. D'ailleurs, Nelson Mandela, le père de cette nation arc-en-ciel, disait que l'Afrique du Sud ne serait jamais complètement libre tant que la Palestine n'aura pas à recouvrer sa liberté.
Judith, on observe l'absence de la Chine autour de la table des négociations, si tant est qu'elle existe, en tout cas des impétrants, des acteurs, de ceux qui veulent que l'on revienne à la paix, en tout cas au calme, alors que la Chine semblait prête à apporter ses bons offices dans le conflit israélo-palestinien il y a de cela quelques mois. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Oui, effectivement, la Chine s'est déclarée disposée à aider les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'acheminer vers la paix. Mais à ce moment-là, la Chine venait de réconcilier l'Iran et l'Arabie saoudite, à la grande surprise générale. Et ce succès inattendu s'ajoute au constat de la présence manifeste de la Chine au Moyen-Orient, surtout à travers son projet de nouvelle route de la soie, et laisse penser que la Chine pourrait y jouer un rôle. Mais la réalité, c'est à nuancer. Pékin multiplie ces derniers temps les appels à la retenue, à un cessez-le-feu, à l'arrivée de l'aide humanitaire et surtout à une solution politique globale des deux États. En fait, il s'agit d'une neutralité pro-palestinienne, même si avant le 7 octobre, la Chine entretenait de bonnes relations avec Israël. Mais le fait que la Chine a mis 3 jours avant de condamner l'attaque surprise de Hamas en Israël a jeté indéniablement un froid dans les relations bilatérales, d'autant que sur les réseaux sociaux, on trouve facilement des propos antisémitistes, ce qui n'arrange pas les choses.
Ou anti-israéliens plus largement. Comment expliquer la position chinoise aujourd'hui ?
Il faut dire que la position chinoise sur cette question est beaucoup axé sur les relations avec les Américains, alors qu'Israël est considéré comme soutenu par les Américains. Et pour la Chine, tant que les États-Unis ainsi que l'Occident s'épuisent face à deux guerres en même temps, ils auraient moins de temps pour se préoccuper de la Chine, de l'Asie de manière générale. Et par conséquent, on voit la Chine appelle à prendre la mesure des souffrances des Palestiniens à Gaza d'un côté. De l'autre, il laisse entendre aussi que certains pays, à comprendre les États-Unis, attisent le feu par intérêt politique et économique. Et il faut dire aussi que l'amitié de la Chine avec le monde arabe de ces dernières années est aussi un élément très important que la Chine ne peut pas négliger.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Action Monde sur Gaza, sur ce qui se passe là-bas. J'ajoute que l'Égypte annonce, enfin c'est pas l'Égypte qui l'annonce, c'est un média américain et une ONG égyptienne qui affirment que les autorités égyptiennes construisent actuellement un camp fermé, sécurisé dans le Sinaï. Cela pour accueillir les Palestiniens de Gaza qui fuient la guerre, en tout cas qui la fuiraient encore plus en cas d'offensive israélienne sur Rafah.
20 degrés Paris, 20 degrés Montréal, 20 degrés Sydney.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Vous savez, surtout si vous écoutez RFI, le Sénégal traverse une crise politique inédite depuis quelques jours maintenant. Une crise née de la décision du président de la République de reporter la présidentielle. Ce report au 15 décembre a été annulé par le Conseil constitutionnel qui juge les textes fondant la décision de prolongation du mandat du chef de l'État contraire à la Constitution. Alors les regards sont maintenant tournés vers Macky Sall. La rédaction Fulfudé, basée à Dakar, suit bien évidemment ces événements de très près. Tim Bimbal, du côté de ceux qui ont attaqué ce report en justice, on crie donc victoire. Hein.
Ah oui, Philippe, bien sûr, ils sont bien contents. Surtout, c'est dont la candidature pour cette présidentielle avait été déjà validée par le Conseil constitutionnel. Ils ont toujours défendu que la crise institutionnelle sur fond des suspicions de corruption invoquées par Macky Sall pour justifier sa décision de reporter n'est qu'une fiction. Désormais, avec cet arrêt de la Cour, ils assurent que le processus électoral déjà engagé va continuer. C'est seule la date qui change. Écoutons à ces propos pour Tierno Alassane Sall, l'un des 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Pour lui, c'est une victoire historique pour la démocratie.
Que dit cet opposant, Timbi?
Tierno Alassane Sall indique que cette décision du Conseil constitutionnel est salutaire pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique, car personne ne croyait que le Conseil constitutionnel allait désavouer le chef de l'État. Il assure que le président Macky Sall a perdu sa crédibilité à cause du non-respect de ses engagements. Tierno Alassane Sall termine en s'adressant à tous ceux qui ont perdu des proches et des biens dans ce combat. Il leur dit que le résultat n'a pas été vain, car le Conseil leur a donné raison.
Timmy, la mouvance présidentielle, elle aussi trouve son compte dans cette décision.
Philippe, chacun tire l'autre de son côté. C'est en tout cas ce qu'on observe avec les différentes réactions. Si les opposants qui contestaient la décision du report de la présidentielle crient victoire, ceux de la mouvance présidentielle aussi croient que la décision du Conseil constitutionnel leur est favorable. Lors de son adresse à la Nation du 3 février dernier, le président Macky Sall avait annoncé un dialogue avec tous les acteurs politiques pour la tenue d'une élection inclusive. Dialogue au cours duquel les différents politiques seraient réglés. Pour ses partisans, la décision des sages de la Cour a bien laissé une ouverture pour la tenue de ces concertations. C'est pourquoi, argumente-t-il, les juges ont juste invité l'autorité à fixer la date des élections dans les meilleurs délais et non dans un bref délai. Donc cela laisse le temps au président pour aplanir les divergences des acteurs politiques, indique Moussa Sow, leader de la jeunesse de la mouvance présidentielle. On va l'écouter.
Décision ay bayadani président Macky Sall sa jewtande parce que président Macky Sall har no ko hala abroger le décret
notre. Aidez-nous à comprendre ce que dit Moussa Sow.
Au fait, Moussa Sow assure que la décision du Conseil constitutionnel n'a jamais désavoué le président Macky Sall, qui n'a dit que les élections ne peuvent se tenir le 25 février, et c'est qu'a confirmé la Cour, qui a d'ailleurs demandé aux autorités sénégalaises de fixer une nouvelle date. Et pour fixer cette date, le président de la République a déjà invité les forces vives de la nation à des discussions pour trouver un consensus, soutient donc Moussa Sow.
Et puis, pour remonter un petit peu dans le temps, les semaines qui ont précédé cet arrêt du Conseil constitutionnel avaient été très agitées un peu partout dans le Sénégal.
Oui, depuis le 3 février dernier, date du report de ces élections, les partisans du respect du chronogramme électoral ont mené une double bataille dans la rue et devant les tribunaux. Ces opposants et acteurs de la société civile ont tenté d'organiser des manifestations à Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays, des manifestations toutes interdites, donc empêchées par les forces de l'ordre. Déjà, 3 personnes ont été tuées dans ces violences, mais cela n'a pas découragé ces opposants, principalement ceux dont la candidature à la présidentielle sont déjà validées par le Conseil constitutionnel et des acteurs de la société civile réunis au sein des AR sous nos élections, qui veut dire protégeons notre élection. Je vous propose d'écouter ici Dr Fatima Lissal de AR sous nos élections. Elle a été interviewée par Fadima Sy, notre correspondante ici à Dakar.
Président Macky Sall, au Yaltad, le 2 avril, Sotou, président de l'Assemblée nationale, Fouti Haddad.
Quel est son commentaire sur ce que dit le chef de l'État sortant?
Au fait, docteur Sall explique qu'elle n'a rien contre le président Macky Sall, dont elle défend d'ailleurs le bilan qu'elle juge positif, mais elle assure que pour le bien du pays et de la démocratie, Macky Sall doit partir le 2 avril prochain.
Alors, ce qui se passe au Sénégal suscite bien des réactions dans la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO.
Oui, à commencer bien sûr par la CEDEAO qui exhorte les autorités sénégalaises à respecter la décision du Conseil constitutionnel en fixant la date des élections conformément à cet arrêt. Faudrait préciser qu'une visite du président nigérian Bola Tinubu, celui qui est le président en exercice de l'organisation au Sénégal, a été annulée à la dernière minute en début de semaine. Finalement, c'est une mission du Parlement de l'instance sous-régionale qui s'est rendue à Dakar, ça a rencontré le président Macky Sall. Alors que de nombreux observateurs pensaient que le dossier Sénégal allait être évoqué lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'organisation, il n'a pas figuré sous le communiqué ayant sanctionné cette rencontre.
Une position qui suscite une interrogation, à un moment où la CEDEAO est fragilisée par le départ de 3 de ses pays membres.
Pratiquement tous les partenaires du Sénégal ont exprimé leur préoccupation suite à cette crise née du report de cette présidentielle, de la France donc à l'Union européenne en passant par les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine s'est d'ailleurs entretenu avec le président Macky Sall. Anthony Blinken a exhorté le chef de l'État sénégalais à organiser des élections le plus vite que possible, tout en exprimant son inquiétude quant aux tensions politiques accrues à travers le pays, d'après le porte-parole du secrétaire d'État américain.
Encore une question, Timbi, est-ce qu'il y a des actions en cours pour sortir de cette crise ?
Je le disais tout à l'heure, Philippe, en reportant ces élections, Macky Sall avait annoncé la tenue d'un dialogue national ouvert qui doit aboutir à la tenue d'une élection inclusive. C'est l'appel lancé aussi par les anciens présidents Abdou Diouf et Ablaye Wade qui, pour une rare fois, prennent la parole dans une déclaration conjointe. Ils appellent tous les acteurs politiques de la société civile au dialogue pour sortir de la crise. Ils précisent que leur successeur, donc Macky Sall, aurait réaffirmé son engagement à ne pas briguer un troisième mandat, mais plusieurs questions se posent autour de ces dialogues, dont celle d'Ousmane Sonko, le plus farouche opposant de Macky Sall, aujourd'hui en prison et exclu de la présidentielle, dont certains de ses partisans ont été libérés hier jeudi. Il faudrait juste rappeler que le président Macky Sall a réagi aujourd'hui tout à l'heure et il a promis qu'il va respecter donc cette décision du Conseil constitutionnel.
Oui, Macky Sall, pour reprendre les termes précis, Timiba, la rédaction Fulfudé de RFI, Macky Sall s'est engagé à organiser le scrutin dans les meilleurs délais, c'est le terme employé, et il assure mener les consultations nécessaires. Il en sera bien évidemment question dans Afrique Soir tout à l'heure, il sera à 18h30 en temps universel. La rédaction persane de RFI s'est particulièrement intéressée cette semaine à ce qu'a dit l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères. Il affirme que son pays possède tout le matériel nécessaire pour se doter de l'arme nucléaire. Vahid Shamodinejad, est-ce que c'est inédit une telle déclaration ?
En vrai, non, ce n'est pas la première fois qu'on entend une telle déclaration. Depuis 2022, les responsables iraniens ont parlé ouvertement de quelque chose que Téhéran a longtemps nié, alors que le pays enrichit l'uranium à des niveaux jamais atteints. Là, je dirais qu'on assiste désormais plutôt à une banalisation de parler ouvertement de la capacité de la République islamique à fabriquer une arme nucléaire s'il le souhaite. Je vous propose d'écouter d'abord cet ancien responsable avant de vous expliquer l'enjeu.
من میخوام ازتون اینو صریح بپرسم ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
Alors, qui est cet homme et que dit-il ?
Lui, c'est Ali Akbar Salehi, l'ancien chef de la diplomatie iranienne qui a aussi dirigé l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. En réponse à la question d'un journaliste de la télévision d'État qui lui pose cette question, « Avons-nous la capacité de construire une bombe nucléaire ?» Lui répond « Écoutez, nous avons tous les seuils de la science et de la technologie nucléaire. » Par la suite, il compare la fabrication d'une bombe nucléaire à la construction d'automobiles. Je vous donne un exemple. Il dit « De quoi a besoin une voiture ? Il lui faut un châssis, un moteur, un volant. Si vous me demandez « Avez-vous construit la boîte de vitesse ?» Je dirais « Oui, le moteur, oui. » Mais chacune de ces pièces est construite pour son propre objectif. » Fin de citation. Une manière indirecte pour confirmer la détention de la technologie nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire par Téhéran.
Donc c'est important ce qu'il dit. Dites-nous en plus sur cet homme. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ?
En tout cas, bien que ce monsieur n'ait plus le poste de responsabilité, mais il était et il est toujours un homme de confiance pour le guide suprême Ali Khamenei en matière de politique étrangère. C'était d'ailleurs lui qui, en 2012, avec l'autorisation de Khamenei, a commencé les dialogues discrets et directs avec les Américains à Oman. Les négociations qui, 3 ans plus tard, ont mené à l'accord historique sur le nucléaire iranien. L'autre chose qui montre que ces propos ont été pris au sérieux, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas tardé à réagir à ces déclarations. On va l'écouter.
Of course, this is an accumulation of complexities, so, because in a region in the current circumstances,
que dire à Raphaël Grossi?
Raphaël Grossi, s'exprimant mardi lors du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, estime que l'Iran présente un visage qui n'est pas entièrement transparent en ce qui concerne ses activités nucléaires. Sans mentionner directement son responsable iranien, le patron de l'AIEA se plaint en disant qu'on parle de plus en plus vaguement d'armes nucléaires, y compris récemment en Iran. Un très haut fonctionnaire a dit en fait « On a tout, mais c'est démonté ». Eh bien, s'il vous plaît, faites-moi savoir ce que vous avez, demande-t-il.
Question, est-ce que le programme nucléaire iranien est toujours surveillé par les inspecteurs de l'AIEA ?
L'Iran, en tant que signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires TNP, s'est engagé à permettre aux inspecteurs de l'AIEA de visiter ses sites nucléaires pour s'assurer que son programme est pacifique. Téhéran a également accepté une surveillance supplémentaire de la part de l'AIEA dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Rappelons qu'en 2015, lorsque l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien a été signé entre les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, plus l'Allemagne avec l'Iran, Téhéran acceptait que son programme nucléaire soit strictement contrôlé par les inspecteurs de l'agence onusienne. Et en contrepartie, les sanctions liées au nucléaire qui touchaient le pays devaient être levées et suspendues. Tout allait plus ou moins bien jusqu'à ce que Donald Trump arrive au pouvoir à la Maison-Blanche. En 2018, il décide de retirer les États-Unis de cet accord, ce qui l'a fait voler en éclats.
Mais après, son successeur, Joe Biden, a tenté de le ranimer cet accord, mais les négociations engagées entre Téhéran et les 5 pays toujours signataires sont au point mort depuis maintenant 1 an et demi. Hein.
Oui, c'est vrai, et pendant ce temps, l'Iran s'est désengagé d'une série de ses engagements. Il a notamment poursuivi l'enrichissement de l'uranium à 60%, un niveau jugé par les experts au seuil nécessaire pour la fabrication d'armes nucléaires. Début janvier, l'Institut pour la science et la sécurité internationale, dans son rapport sur le temps nécessaire pour l'Iran pour fabriquer des armes nucléaires, a déclaré que le long chantier de la construction d'armes nucléaires est pour l'essentiel terminé. Pour l'Institut basé à Washington, l'Iran peut produire rapidement suffisamment d'uranium hautement enrichi pour fabriquer plusieurs armes nucléaires, ce qu'il ne pouvait pas en faire en 2003 au moment de la révélation de son programme nucléaire clandestin.
Ah, pour résumer, est-ce qu'on est dans une situation inquiétante aujourd'hui ?
L'Iran juge désormais inutile la relance éventuelle de l'accord nucléaire conclu en 2015. C'est au moins ce qu'a affirmé son ministre des Affaires étrangères. Donc, pas d'accord, pas de contrôle strict de son programme. Depuis 2021, l'instance onusienne peine à contrôler le programme nucléaire iranien. Le directeur général de l'AIEA a exprimé son inquiétude en octobre dernier et a appelé la communauté internationale à ne pas faillir en Iran comme elle l'a fait en Corée du Nord, aujourd'hui dotée de la bombe atomique. C'est d'autant plus inquiétant que dans le contexte d'une accumulation de complexité, selon Raphaël Grossi, au sein d'un Moyen-Orient marqué notamment par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, dans cette situation, l'Iran a franchi une nouvelle étape cette semaine en procédant à des tirs de missiles balistiques de longue portée à partir d'un navire de guerre.
Vaïd Shamsoudijanad de la rédaction en persan de Radio France Internationale. Depuis une semaine, c'est l'année du dragon. D'ailleurs, on l'avait célébré, enfin, on l'avait annoncé ici même, il y a pile une semaine. Judith Cheng de la rédaction chinoise. Il faut se rappeler que parmi les 12 signes astrologiques chinois, le dragon est le seul animal purement imaginaire.
En effet, et cela contrairement à ses 11 compagnons, que ce soit le coq, le cochon, le lapin, tous sont des animaux communs. Alors son omniprésence dans la culture traditionnelle semble surtout liée au fleuve jaune, qui est à la fois une source de vie, mais aussi un monstre dévastateur par ses fréquents débordements. Alors il est donc par conséquent à la fois vénéré et craint. Aujourd'hui, on retient surtout ses vertus de force, de puissance dans l'imaginaire collectif, exprimant une aspiration à une vie meilleure, réussie. Alors, l'année du dragon insuffle ainsi une sorte de dynamisme et une promesse de bon augure. Il est courant que certains Chinois aimeraient avoir un bébé dans l'année, une sorte de bébé dragon, ce qui est bienvenu pour les autorités chinoises à l'heure d'une baisse importante de naissances.
Alors, ce dragon 2024 tombe en pleine morosité de l'économie chinoise, en plus des difficultés que rencontre le pays sur la scène internationale.
Tout à fait, le gouvernement a aussi besoin de la force dynamique du dragon, même imaginaire, pour faire oublier la morosité et faire croire en un avenir meilleur. La CCTV, la chaîne de télévision officielle, a ainsi choisi d'intégrer un mot que personne ou presque ne connaît dans le thème de sa grande soirée du réveillon du Nouvel An chinois, faisant en sorte que ce thème en 4 mots contient 7 dragon. Alors ce mot que la plupart de Chinois ne connaissent même pas veut apparemment dire un envol haut et fort.
Alors est-ce qu'on peut dire que ce dragon est chargé d'une mission, d'une ambition politique ?
Tout à fait. Ce dragon de 2024 fait l'objet en plus de 2 récits qui révèlent un regain du nationalisme encouragé par les autorités. D'abord, écoutez bien, le dragon n'est plus chinois mais occidental.
Comment ça ?
Je m'explique. En fait, quelques soi-disant historiens affirment ces derniers temps qu'il s'agit d'une erreur de traduire le mot chinois « long » en anglais « dragon », en français « dragon ». La bonne traduction, selon eux, aurait dû être « long », L-O-O-N-G, qui est proche de sa prononciation en chinois. Car selon ces 2 noms de cette hypothèse, le dragon dans l'imaginaire occidental est un animal méchant et agressif qui crache en plus du feu, alors que le long chinois est plutôt bienveillant et protecteur. Pour eux, si la traduction de cet animal totem chinois en dragon est due à une mauvaise compréhension, sinon une interprétation plutôt pour diaboliser cet empire du milieu qui leur faisait peur. Alors ce discours est resté longtemps en fait confidentiel, mais a pris une allure assez officielle cette année, puisque la très officielle chaîne de télévision internationale chinoise, CGTN, traduit cette année du dragon en anglais « The Year of Long », au lieu de le dire en « The Year of Dragon », comme dans le passé. Et voilà, désormais, vous avez le dragon occidental et le long chinois.
Est-ce qu'il faut y voir une résonance nationaliste dans tout cela ?
Oui, il n'est pas difficile d'y voir l'ombre des critiques de Pékin ces dernières années à l'écart des valeurs occidentales. Alors, en parallèle, un autre récit marque cette année 2024. Il s'agit de l'expression « considérant les Chinois comme descendants du dragon ». Cette expression a fait son apparition dans l'espace public chinois dans les années 80, mais plus précisément en 1985, avec une chanson intitulée ainsi, qui a fait un tabac en Chine pendant quelques années. Nous l'écoutons.
«
C'est quoi cette chanson, Judith?
Alors, cette chanson porte ce titre, Les Descendants du Dragon, a été écrite par un jeune Taïwanais. Et alors, il chante dans les chansons, il dit « Dans l'Orient lointain, il y a un dragon, il se nomme la Chine. Dans l'Orient ancien, vivait un peuple, ils sont tous descendants du dragon. » Hu Ping, qui est un commentateur chinois qui vit aux États-Unis, nous explique pourquoi il a eu des succès.
On l'écoutera peut-être une autre fois, parce que là, le temps nous montre. Par contre, je peux vous souhaiter à nouveau et à nos auditeurs une bonne année du dragon. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Le goût du monde.